à Mercadier, il y a un agenda islamique. Là. J'espère qu'on commence à voir ça. Là.
Regardez, c'est tellement ridicule et grotesque comme accusation. Il me semble que ça va de soi. Je suis principal porte-parole d'un parti qui est féministe. En plus, je viens de milieu de militants où mes parents, où mes beaux-parents, où mon épouse, où toute ma famille est engagée dans le combat politique contre le fanatisme islamique depuis au moins 30 ans. Alors, quand quelqu'un dit un agenda islamiste caché, c'est assez grotesque. En fait, c'est des gens qui n'ont pas fait leur travail sérieusement.
Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, l'émission du collectif anarchiste de la nuit. Vous vous demandez peut-être pourquoi, dans ce cas-là, vous avez entendu la voix d'Amir Kadir en introduction. C'est parce qu'on va revenir sur une polémique concernant son supposé agenda caché islamiste. Ah. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir ses ennemis.
Moi, je pensais que c'était parce que c'était le seul qui n'avait pas eu d'enveloppe brune dans la dernière semaine. Il y avait juste eu des menaces.
Donc, je suis Nicolas, en compagnie de...
Johnny.
Et Farouk.
Et cette semaine, donc, retour sur la polémique concernant l'agenda islamiste caché d'Amir Kadir. Mais avant ça, on va avoir un tour d'horizon pas mal complet sur les manifestations qui ont secoué le Québec le 23 novembre. Alors, manifestation qui était appelée par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics.
Puis j'ai aussi parlé de plusieurs sujets cette semaine. Premièrement, je vais parler du profilage ethnique jugé inefficace concernant la lutte antiterroriste. Des milliers d'étudiants qui ont manifesté nouveau en Grande-Bretagne. Il y a une grève générale historique contre l'austérité au Portugal et la santé qui ruine 100 millions de personnes dans le monde.
Et il y a aussi nos chroniques habituelles et on va commencer d'ailleurs avec la blague anarchiste.
La blague anarchiste. Une fois, c'est le réformisme, le conformisme puis la lutte qui vont manger dans un resto. Qui c'est qui paye la facture? Ben, seule la lutte paie. C'est quoi la détente préférée des fascistes? C'est celle des fusils. Charade. Mon premier est un animal habitant les montagnes rocheuses. Mon second est prononcé au Québec lors des toasts à la santé de quelqu'un. Mon tout est un municipaliste libertaire américain. La réponse, Bookchin. Bookchin. Deuxième charade. Mon premier est un synonyme québécois pour désigner un ou une amie. Mon second se porte aux pieds l'hiver. Mon tout est le plus anarchiste des linguistes. La réponse, Chomsky. Chomsky.
Ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Comme des ports, de l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de mort. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les ports s'empiffent, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et aussi les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles. seulement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des stages conduits à la démence, méthode devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout fini en règlement de compte, à coup de schlag, le sang inonde.
Donc c'était Porcherie des mythiques Béruriers Noirs sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez évidemment Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste de la nuit, qui était mobilisée en grande mardi le 23 novembre hier. Donc si vous nous écoutez en direct, et il y a presque une semaine si vous nous écoutez en différé, c'était qu'il y avait une journée d'action qui avait été appelée par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Ça, c'est une grande coalition qui regroupe 120 groupes, des organisations communautaires, féministes, syndicales, étudiantes et même au moins deux groupes politiques sympathisants, dont l'Union communiste libertaire à laquelle le collectif adhère. Donc voilà, il y a eu des manifestations un peu partout. On a rapporté des reportages. Curieusement, pas de Québec par contre. Enfin, bon. À Montréal, il y avait 1500 personnes dans les rues selon les organisateurs qui ont bloqué pendant une heure et demie le siège social d'Hydro-Québec. François va nous ramener un assez long reportage, merci, qui fait le tour de la question et des bien plus. À Québec, il y a une cinquantaine... En fait, là, ça dépend qui qu'on parle. Entre 50 et 100 personnes, surtout des étudiants et des étudiantes du collège FX Garneau, qui ont bloqué Charest un court moment et qui ont fait une université populaire au coin de Charest, Marie de l'Incarnation. Non, c'est pas Marie de l'Incarnation, Côte-Saint-Sacrement.
Saint-Sacrement.
Charest-Saint-Sacrement. On avait reçu la semaine dernière, si vous en souvenez, trois militantes de l'association étudiante. Évidemment, il pleuvait à boire debout, donc c'est surtout des gens de Garneau. C'est très bon quand même, première action, une cinquantaine de personnes. En Rivière-du-Loup, il y a, et là, ça varie vraiment beaucoup, 100 personnes selon Radio-Canada, 500 selon les organisateurs. Enfin, des délégués de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN qui étaient réunis en congrès et qui ont bloqué la rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup pendant une demi-heure symboliquement pour participer aux manifestations. À Longueuil, une soixantaine de personnes qui se sont regroupées devant le siège d'Hydro-Québec à Longueuil, qui ont déroulé une immense bannière sur le bord du fleuve. Sherbrooke, ça a rocké un peu plus. Il y avait 200 personnes. C'est la plus grosse manifestation régionale qui voulait, en fait, bloquer l'édifice gouvernemental du 200 rue Belvedere, mais que finalement, ça n'a pas été possible. En fait, non seulement ça n'a pas été possible, mais la police de Sherbrooke semble être un peu plus crinquée que la moyenne au Québec. En effet, il y a 5 personnes qui se sont fait arrêter parce qu'avec de la gouache rouge, elles voulaient laisser leurs empreintes sur l'édifice, le fameux symbole de la main rouge qu'on a vu un peu partout au Québec.
C'était de l'acide.
Oui, surtout dans surtout à Montréal. Et la police les a arrêtés préventivement et ne les a relâchés qu'à 13h40 lorsqu'il est devenu clair. Donc, une heure et demie. Pendant une heure et demie, ils ont été retenus. Et c'est les autorités de l'immeuble qui ont décidé de ne pas porter plainte aux criminels contre eux. Donc, les flics les ont relâchés. Sauf que... le geste contrevient au règlement municipal qui interdit de souiller un bien public ou privé. Donc, ça va être la première fois, finalement, qu'il y aura peut-être des conséquences légales.
C'était à Sherbrooke aussi qu'il y avait eu des gens qui avaient été arrêtés lors des élections.
Ouais, est-ce qu'il y avait un canon en rose, Jean?
Non, lors d'élections, parce qu'ils passaient des tracts le jour des élections, puis c'était une activité électorale, même si c'était sur l'abstentionnisme.
Oui, c'est vrai.
Sherbrooke, ils sont zélés.
Ils sont zélés, les flics de Sherbrooke. Alors, en Outaouais, une soixantaine de personnes à Hull qui ont bloqué une clinique privée et la rue. Alors, on va juste écouter un extrait. En fait, le son d'un reportage vidéo qui a été produit par l'Outaouais.
Coupez les abris fiscaux au lieu des programmes sociaux!
Coupez les abris fiscaux au lieu des programmes sociaux!
Les prestations n'ont pas d'allure! Vous le savez, ça c'est sûr!
En Outaouais! En Outaouais!
En Outaouais! En Outaouais!
Oui, c'est pour ça s'opposer au dernier budget du gouvernement. Oui, c'est pour s'opposer à la taxe santé qu'ils ont instaurée, qu'on paye tous et toutes déjà cette année. Et d'ici deux ans, chaque citoyen et citoyenne ici va payer 200 $, alors que M. Pierre-Carl Péladeau, par exemple, va payer exactement le même 200 $, ce qui fait que c'est totalement inéquitable, sachant les revenus annuels qu'on met tous ici ensemble. On n'atteint pas son revenu annuel à lui. Donc, ce qu'on vient dire aujourd'hui, c'est retirer la taxe santé, retirer la hausse des frais de scolarité qui devrait arriver d'ici quelques semaines, retirer la hausse de la TVQ, retirer la hausse d'Hydro, mais surtout comprenez quelque chose à l'Assemblée nationale, que l'État québécois et les services publics, c'est pour la population, c'est pas pour s'enrichir dans le secteur privé, c'est pas pour que des entreprises privées fassent de l'argent sur le dos des personnes qui sont malades. Nos services publics ont été créés parce qu'on est supposé de vivre en société. Nos services publics se doivent d'être accessibles à tous et à toutes également.
On a raison d'être ici parce que le gouvernement, il n'écoute pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. J'ai comme l'impression qu'il écoute juste quand il y a des gens dans la rue. Et je vous donne un exemple. Quand il y a l'étiquette modérateur qui faisait également partie, ça faisait partie des cartons du gouvernement, il voulait imposer l'étiquette modérateur. Et je pense que c'est les gens dans la rue qui ont fait reculer cette étiquette modérateur. Je me souviens qu'ici même dans la région, au mois de juin, il y avait une manifestation semblable à celle-ci qu'on avait organisée contre l'étiquette modérateur. Ça s'était répété dans plusieurs régions et l'étiquette modérateur il a été obligé de sortir. Alors, c'est pas rien que dans la rue, on a raison de...
T'aurais, si tu savais, des coupures où on se les met. Aucune hésitation! Non, 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 à privatisation! Non, 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 à tarification!
Alors ça, c'était en Outaouais, à Hull, et puis ben, c'est l'Outaouais. Ouais, l'Outaouais, c'est le nom du compte YouTube. Quand on a été chercher ça là-dessus, c'est en fait le militant Bill Clinet que tout le monde connaît parce que Jean Chrétien s'est égorgé il y a quelques années. Donc c'est lui qui a tourné cette vidéo-là.
Il l'a sauvagement étranglé en fait.
Oui, très intéressant. Mais ceci dit, dans la journée, le gros de l'action se passe à Montréal. 1500 personnes selon les organisateurs, au moins 1000 personnes, peut-être 1500. Enfin, se sont mobilisés à l'appel de la coalition, ont manifesté et ont finalement bloqué pendant une heure et demie le siège social d'Hydro-Québec. Et puis, ben, c'est ça, c'est une marche très, très bigarrée, très intéressante à laquelle on a participé. Si vous voulez, en savoir plus, ben, écoutez à l'instant ce que notre camarade François en a ramené.
Ça va? Grosse journée de manifestation en ce mardi 23 novembre à Montréal. On vient juste de débarquer du bus. On est la gang de Québec qui arrive à Montréal pour sortir ses pancartes pour dénoncer le budget libéral. On est supposé commencer ça à partir du Conseil du Trésor. Et là, on va marcher, on va se diriger vers on sait pas où. Toujours est-il que les gens sont prêts, les gens sortent leur banderole de l'autobus. Les gens sont prêts à affronter le pavé. Il y a beaucoup, beaucoup de pancartes. Il y a même des pancartes de mouvements syndicaux. Je vois une corde de pendu, une potence. Je vois des policiers en bicycle. Je vois surtout des militants aguerris et prêts à marcher. Donc là, je vois une gang, probablement des anarchistes, là, ils ont le logo de l'UCL, ils ont une bannière qui s'est marqué « Attendons rien de l'État, ils sont de la lutte paix ». Ouais, ça me fait penser à quelque chose.
Oui, et... ça me fait penser à nos t-shirts, ce slogan qu'on reprend beaucoup par les temps qui courent. Ça décrit bien l'atmosphère qu'on voudrait créer au Québec, une atmosphère de lutte contre le budget, contre les réformes néolibérales, contre le gros crottin charret qui nous faut du bord du côté. Seule la lutte paix, ça signifie ça, c'est qu'on n'attendra pas non plus rien des partis politiques, comme le Parti québécois, qui ont, à travers le temps, genre démontré leur incapacité à faire quoi que ce soit, autre que rajouter à notre misère.
Est-ce qu'on pourrait s'attendre plus, par exemple, de Québec solidaire?
Ben écoutez, c'est sûr que Québec solidaire, c'est pas des ennemis au même titre que le Parti libéral. Cela dit, l'histoire a prouvé que les partis sociaux-démocrates, quand ils obtiennent le pouvoir, les conclusions sont pas particulièrement intéressantes. Est-ce que je me rappelle, Québec solidaire, c'est pas encore positionné clairement pour mettre fin à l'État capitaliste, l'État économique de, qui nous a servi. Comment est-ce qu'on peut prétendre régler notre misère en restant dans le capitalisme? Ben c'est la question que Québec solidaire doit se poser.
Puis l'Union communiste libertaire, comment est-ce qu'il répond justement à, au mettons, budget libéral? C'est quoi exactement la, la réponse que propose du CL Montréal?
Par rapport au budget, ben c'est le nier en bloc, à vrai dire. Mais c'est aussi de s'attaquer aux réformes libérales qui ont cours depuis les 10 dernières années. C'est sûr que, bon, la conjoncture étant ce qu'elle est, on prétendra pas renverser l'État demain. Mais battre le budget puis les, ces réformes rétrogrades, là, ça serait, c'est certainement le, l'objectif qu'on s'est donné.
C'est quoi les mesures les plus horripilantes du budget?
Ben, il y a le début de la tarification en santé qui a pour but d'intégrer une logique d'utilisateur-payeur, là, qui comme de nous habituer à payer, qui met fin à une historique de gratuité et d'accessibilité à la santé, puis la hausse des frais de scolarité qui les amènera à la moyenne canadienne, c'est-à-dire 5 000 $ par session. À ce moment-là, je me demande réellement qui c'est qui va avoir accès à l'éducation. En tout cas, ce sera pas moi.
Puis, est-ce que c'est une lutte qui s'inscrit dans la lutte des classes? Est-ce que c'est le budget libéral? Est-ce que c'est un affront de la classe riche contre la classe populaire?
Ben, je pense qu'un exemple va résumer tout ça. Tout le monde a décrié le budget Bachand. Tous les groupes sociaux, les syndicats, les associations étudiantes. Je connais pas un seul acteur de la société civile qui l'applaudit. À l'exception de la Chambre de commerce de Montréal, du Conseil du patronat, les riches et les nantis ont unanimement applaudi ce budget-là comme étant un budget frondeur. Fait que, bon, moi, quand les gros pourris disent bravo à Bachand, puis que nous autres, on dit que c'est de la merde, ben, d'après moi, les enjeux sont bien posés.
J'aurais à la poubelle ton budget!
Oui, je vois que vous avez un drapeau syndicat des métallos. Vous êtes donc un représentant d'un syndicat.
Nous, on pense que la façon de payer pour les services publics, ça devrait passer par un impôt progressif, puis que la tarification, ça va pénaliser la classe moyenne puis ceux qui sont moins nantis dans notre société. Puis c'est un changement qu'on veut pas avoir.
Et est-ce que vous le faites pour les membres de votre syndicat, le syndicat des métallos, ou vous le faites pour l'ensemble de la société?
Ben, on le fait pour l'ensemble de la société, puis dans cette société-là, nos membres sont inclus. Et comme syndicat, ben on a capacité aussi d'intervenir, de faire des pressions, puis on le fait aux côtés des groupes communautaires, puis on trouve ça bien important.
Ouais, vous êtes impliqué dans des peut-être dans la coalition opposée aux hausses de tarifs?
Bon, on est actif dans toutes leurs activités, oui, absolument.
Le syndicat des métallos, c'est actif. C'est quoi exactement votre domaine?
La métallurgie.
Ouais,
c'est le syndicat de la métallurgie. C'est les mines au Québec essentiellement, puis le secteur de l'acier.
Les mines, d'ailleurs, c'est une des rares mesures intéressantes du budget libéral, c'est justement de réviser les redevances minières des compagnies minières. C'est peut-être le seul point saillant intéressant du budget libéral. Je sais pas si...
Oui, c'est à peine mieux que c'était, mais c'est un pas dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, les compagnies minières doivent faire plus, particulièrement au niveau de comment ils laissent les sols après qu'ils ont quitté. Parce qu'on sait que quand une mine ouvre, même monnaie ferme. Puis qu'on serre la vis un petit peu, c'est correct. Mais en même temps, ben notre syndicat, étant donné que des milliers de membres dans ce secteur-là, on est pour un développement minier qui tiendrait compte des jobs qu'il y a dans ce secteur-là, mais aussi d'un respect de l'environnement.
Comme des gages de schiste à l'heure actuelle, nous autres, on demande qu'à l'heure actuelle, on n'est pas contre. Puis bien au contraire, on est pour. À la différence, par contre, il faut que ça se fasse absolument comme du monde, de la façon... Parce que taux d'exemple à travers la planète à l'heure actuelle, où les entreprises multinationales, ils ont développé, mais ils développent en sauvage sans s'occuper de l'environnement. Et c'est une de nos revendications au syndicat des métallos, entre autres.
Mais qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez, par exemple, un moratoire en attendant d'avoir des meilleures réponses? Ou est-ce que... Qu'est-ce que vous prenez?
Absolument. On a adopté la semaine dernière à notre congrès annuel, notre assemblée annuelle à Québec. Il y avait au-dessus de 400 délégués de présents. Puis on a adopté une résolution qui va dans le sens d'exiger du gouvernement un moratoire, qu'on mette un stop, qu'on analyse, qu'on étudie scientifiquement c'est quoi les implications du développement de ce secteur énergétique-là. Puis si on arrive aux conclusions que ça peut se développer de façon sécuritaire dans le respect de l'environnement, tant mieux. Puis si on tire d'autres conclusions, bien, il n'y aura pas de gaz de schiste, c'est tout.
Il y a eu un nouveau joueur qui s'est inscrit dans la lutte contre le gouvernement, l'Alliance syndicale, qui regroupe des gros syndicats. Et il y a la coalition en parallèle. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous vous dites que vous êtes impliqué dans la coalition. Est-ce que vous allez quitter la coalition, aller vers l'Alliance syndicale ou quelque chose comme ça, non?
Non, moi, je pense que les deux sont compatibles. Là, je vois pas pourquoi... moi, je me sens pas du tout en contradiction. J'ai fait à peu près toutes les manifs jusqu'à date du regroupement contre la tarification, mais au même moment, je fais aussi partie de l'Alliance. D'ailleurs, demain soir, on organise une soirée publique au Centre Saint-Pierre avec des groupes d'économistes qui vont donner une autre voix au courant économique dominant. Et l'objectif, c'est aussi d'aller vers un grand rassemblement au mois de février ou mars pour faire contrepoids au prochain budget Bachan. Donc, pour moi, c'est pas incompatible,
c'est,
mais pas...
C'est complémentaire, les deux sont ensemble.
C'est tout à fait, c'est complémentaire. Plus on va être de gens à dénoncer cette situation-là, où on est en train de vouloir aller vers un Québec qui va faire ses budgets, indépendamment que les gens gagnent 30 000 ou 300 000, les mêmes frais pour tout le monde, et qu'on va oublier des pans complets de la société. Donc, il faut être le plus nombreux possible, puis peu importe les organisations, il faut partager notre temps de militantisme, tout simplement.
Donc, j'aimerais ça donner un portrait un peu des gens qui participent à la manif. Je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes, mais aussi une bonne présence des personnes âgées. On remarque les bannières du Frappru. On remarque la table régionale des organismes communautaires, des syndicats. Donc, les complices habituels. Il y a aussi, tiens, c'est curieux, ça, les médias sont présents. Radcan. La police aussi est là, évidemment. Il y a un tapis rouge géant, qu'il y a des gens qui essaient de transporter. Ah, il y a Infoman qui est là. Ah, ça, c'est mauvais signe. Donc, la bannière de tête, c'est non aux hausses, non aux coupures, redistribuons la richesse. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans une photo. C'est la fameuse bannière verte. Salut! Qu'est-ce que tu as dans tes mains?
Une pancarte rouge.
Un espèce de tapis rouge en plastique, tout brisé.
À peu près, mais c'est pour la cause.
Serpenter dans la manif. Ça représente quoi exactement?
Ben, c'est contre la hausse des frais de scolarité. Puis c'est Cégep du Vieux qui fait le mouvement. Donc c'est représenté qu'on est en colère contre ça.
C'est le rouge de la colère. Puis toi, est-ce que tu es étudiante?
Oui, je suis étudiante. Je suis en première année au Cégep du Vieux. Puis je manifeste.
Puis là, est-ce que vous êtes en grève? C'est quoi justement qui se passe?
On est en grève aujourd'hui, demain et le 6 décembre. Puis le Cégep a décidé de fermer les portes hier pour pas qu'on puisse manifester avec l'appui de l'école, genre. Okay. On voudrait ça.
En quoi est-ce que le budget actuel est mauvais pour les étudiants?
Ils veulent augmenter les frais de scolarité à l'université jusqu'à 5 000 $ pour atteindre la moyenne canadienne, alors que présentement, c'est à 1 000 $ Ça quadruple ou cinquuple le prix de l'université, puis ça fait ça élitiste. On est content d'avoir ça le moins cher au Canada, puis on veut pas que ça augmente. On est chanceux, puis on veut que ça reste comme ça.
Donc là, je suis devant un individu qui porte une pancarte, une grosse bannière qui est marquée « Vendre des idées aux enchères, c'est prostituer la philosophie ». Alors, si je comprends bien, vous êtes des étudiants en philo?
Oui, tout à fait. Étudiant en philo à l'Université de Montréal. Puis on a voté la grève pour être ici aujourd'hui.
Pourquoi c'est important pour des philosophes de participer à la manif?
Ben, c'est-à-dire que le rôle de la philosophie, c'est pas juste être dans la pensée, mais c'est aussi de voir comment... c'est déconstruire le discours des politiciens qui disent que la seule alternative, c'est de faire payer aux plus pauvres, aux individus. Il y a de la richesse au Québec. Cette richesse-là, ben, faut aller la chercher aux endroits où il y en a vraiment. C'est pas dans les poches des plus démunis qu'on va trouver grand-chose.
Donc, les étudiants de philo de l'UDM, vous appuyez dans le fond la coalition opposée à la tarification et la privatisation?
Oui, absolument, oui. Ouais.
100%?
100%, oui. Il y a la hausse des frais de scolarité qui rentrent dans cette tarification-là, mais il y a aussi les frais d'Hydro-Québec, les frais de santé. Ben, les étudiants aussi doivent vivre, pas juste étudier. Donc, ils doivent payer pour l'électricité, pour la santé. Puis, en fait, c'est ça, on est combiné le travail-études. C'est une manière aussi de détruire la qualité de l'enseignement parce que c'est pas vrai qu'on peut à la fois travailler puis étudier. Donc, on est vraiment touché par toutes ces applications-là du budget.
Je trouve ça intéressant parce que tu me dis, les étudiants, on marche pour
s'opposer, dans le fond, aux hausses de tarifs des étudiants, mais aussi pour combattre tout le reste. Dans le fond, oui. vous défendez pas seulement vos intérêts, mais aussi ceux de l'intérêt de toute la classe populaire, dans le fond.
Oui, absolument, parce que dans le fond, les étudiants font partie de la classe populaire, parce que c'est pas vrai que c'est des gens qui sont fortunés d'emblée. Donc, effectivement, on est à la fois dans les gens qui sont touchés, premièrement, par ces répercussions-là, on appartient à la classe populaire. Il faut le rappeler aussi, là, tu sais.
Couper les abris fiscaux, on veut des programmes sociaux.
C'est sûr qu'il y a des étudiants qui se disent, bon, mais moi, quand je vais être riche avec mes études, bon, c'est sûr que c'est un choix, là. C'est de dire, moi, j'utilise le service éducation pour m'enrichir, mais c'est pas le choix de tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde choisit de s'éduquer pour devenir riche. Les gens s'éduquent parce que c'est un accomplissement humain. Et nous, en philosophie, c'est ça qu'on voit aussi. On se rend compte que...
Vous faites pas ça pour être riche.
Non, on fait pas ça pour être riche. Puis on se rend compte que le propre de l'être humain, c'est de vouloir s'éduquer et se parfaire en tant qu'individu, pas nécessairement pour c'est pas quelque chose de rentable. C'est quelque chose de... C'est un accomplissement personnel. Puis donc, c'est ça qui nous importe, nous, c'est de dire l'éducation, c'est pas un investissement sur soi en tant que futur diplômé, c'est ça, futur contribuable. Non, c'est vraiment un accomplissement, c'est un droit fondamental. C'est aussi une nécessité pour toute personne qui vit dans une démocratie d'être éduquée, de savoir ce qui se passe dans sa société, puis d'avoir un regard critique. C'est ça que l'éducation amène, c'est le regard critique.
La PTS, travailleurs de la santé, vous êtes tannés des magouilles?
On est les techniciens, les professionnels de la santé, alors des techniciens en radiologie, laboratoire, psychologues, travailleurs sociaux, etc. Alors nous, on est tannés parce qu'on est obligé de couper des services à la population. Puis on sait qu'il y a des patrons, eux autres, qu'ils continuent d'avoir des postes cadres, ils continuent de remplacer, ils continuent d'avoir des buffets.
On augmente le nombre de cadres, puis on n'augmente pas le nombre de travailleurs.
C'est ça. Puis là, on nous dit qu'il faut couper, il faut couper. Nous, chez nous, c'est 8 millions. Puis
Vous êtes chez vous, c'est où ça?
C'est le CSS de l'Ouest de l'île.
OK. Tout d'un coup, il faut vous couper 8 millions de dollars dans les budgets.
On est en déficit de 8 millions.
Et c'est quoi vous allez faire?
Mais là, ils devaient s'asseoir avec nous, avec les syndicats, pour en discuter, mais on attend toujours les rencontres. Ils font déjà des coupures, ils font déjà des non-remplacements. Ils veulent arrêter de payer aussi les kilométrages. Les gens ont à se déplacer, ils veulent pas rembourser le kilométrage, ils veulent pas. Alors, ils essaient de couper partout, mais c'est surtout les services à la population qui coupent. Alors, les gens ont des caseloads, ont 20 personnes à voir, ben là, il faudrait que tu envoies juste 12. Tel service, on va les couper parce que ça coûte trop cher.
Mais pourtant, Charest, il disait, avant d'être élu, il disait notre priorité, c'est la santé.
C'est peut-être sa santé à lui, là, mais pas la santé des autres.
Charest, qu'est-ce que vous pensez de la contribution santé, 200 $ par année?
Ça n'a pas d'allure parce que c'est comme 200 pour tout le monde. Alors, la personne qui est riche, qui a un gros salaire, ça la dérangera pas, mais le petit là qui va avoir de la difficulté, fait que ça va faire que les gens n'iront pas se faire soigner et ils vont arriver au max, au bout du rouleau. Puis là, ça va être des coûts encore plus énormes. Puis quand ils ont fondé les CLSC, à l'époque, c'était pour la prévention. Il n'y a pas de prévention vraiment de fait. Il y en a un peu, mais la prévention, c'est ça qui est important. Puis c'est comme oublié. Là, maintenant, on met des plasters, puis c'est des plasters cheap en plus qui sont là.
Puis pourquoi est-ce que les travailleurs de la santé, vous avez décidé de venir aujourd'hui, de descendre dans la rue?
Parce qu'on est solidaires, on trouve ça important. Il faut que les services publics demeurent gratuits.
Donc, les manifestants viennent de bloquer l'entrée pour l'édifice d'Hydro-Québec. Donc, les gens peuvent sortir, mais ne peuvent plus rentrer. Salut!
Bonjour!
C'est quoi exactement votre organisation Campus féministe?
Oui, pour la promotion de l'égalité des sexes à l'Université de Montréal.
Et c'est quoi exactement votre organisation?
Ben, c'est fait pour essayer d'avoir plus d'égalité possible entre les hommes et les femmes. Et c'est essayer de pouvoir informer les étudiants, puis les professeurs aussi beaucoup, sur qu'est-ce que c'est le féminisme, qu'est-ce que c'est le sexisme aussi.
Et pourquoi les féministes descendent dans la rue là, en ce 23 novembre?
Ben, on est celles qui sont les plus touchées souvent par les coupures budgétaires, par exemple. On sait qu'historiquement, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à l'accès à l'éducation aussi. Donc, c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui.
Donc vous, vous êtes de l'AREC CSQ.
L'AREC, l'Association l'AREC. Des retraités du Québec, Vieux-Longueuil.
Et pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous descendez à la rue le 23 novembre?
Je trouve pas que ça va assez mal, là, comme ça, avec un gouvernement comme on a. Faut le manifester. Mais je suis un gars, j'ai fait 11 ans et demi d'industrie en électricité avant. J'ai enseigné 30... J'étais dans l'enseignement 34 ans. 17 ans enseignant, 17 ans conseiller pédagogique pour la formation professionnelle. Là, je suis dans ma 11e année de retraite. Puis s'il fallait faire comme Charest, il gagne, sa gang et compagnie, là, dormir sa switch, imagine que toutes les personnes de mon âge qui ont fait du bénévolat, qu'on déciderait de faire la grève pendant une semaine demain, ça sera encore pire que ce que c'est que c'est là.
Ah ben tiens, pourquoi pas? La grève générale est justement l'une des options avancées par la coalition pour faire reculer le gouvernement. Alors, pourquoi pas? Grève générale!
Et de retour à Voix de Fait. Donc, c'était le reportage de François sur la manifestation à Montréal. Si vous voulez voir de quoi ça pouvait avoir l'air, on a mis deux vidéos et beaucoup de photos sur notre blog, Voix de Fait avec un X et un S.blogspot.com. Et c'est le moment du petit nanan. On va pouvoir aller en musique.
Ça fait longtemps qu'ils essaient de nous arrêter et nous mettre des bâtons dans les roues, you know. Le chemin est rempli d'obstacles, on les a surpassés et on continue encore. Du monde change, pas le choix, you know. Jusqu'à la fin, ils nous auront pas, you know.
J'en ai plus rien à foutre, donne des lèches et tes sept. Je vais aller jusqu'au bout, la tête froide et les yeux secs. Plus rien ne peut m'arrêter, pas même ma mom ou mon father. Pas même baby love ou ma soeur, laisse au rap le manager. Pour de vrai, je m'ancrisse, focus sur l'objectif. Je me sens comme dans l'autobus avant d'étonner l'explosif. Si c'est moi qui coque le punch, alors le punch est un problème. Je persévère jusqu'à la fin, abandonner le probable. Même si je dalle, le message vit encore. Porte-le à bout de bras, fiche le haut qu'on vit à corps. Si t'opposes un obstacle, je contourne, je surmonte. Tu ne le feras qu'une fois, moi d'âme comme je suis le monde. Je viens laisser ma marque, aider les billes à scalater. N'a rien à foutre de ma life, ma j'ai donc ce que vaut la tienne. En paix avec moi-même, est-ce que tu peux en dire autant? C'est l'ascension vers heaven ou bien descendre à faire longtemps.
Yeah, web, rien va nous arrêter, you know. J'ai dit, dis-moi le stars, depuis back then, nothing's gonna stop. Je ne pourrai m'arrêter de militer, manifester pour l'égalité sans cesse harcelé par les cops. Mille intimidés, médiatisés, humiliés par la société, mais je persévère avec mon hip-hop. Mille pour répliquer, m'expliquer, m'exprimer en guerre contre l'humanité. Nothing, nothing's gonna stop me. No, nothing's gonna stop me.
Du pierre et une volonté de glace. C'est entré dans mon aide, deep down d'au moins 20 brasses. Esprit volatile, n'essaie pas de jouer les émotions. Car j'aurai zéro pitié pour quiconque veut les émotions. Je vais aiguiser mes ongles, t'arracher le cœur de la poitrine. L'homme tête par la porte, porte l'odeur de la latrine. Ne laisse rien les personnes se mettre en toi et ta mission. Surtout toi, car tout s'écroule si tu gères mal tes ambitions. À la base, tu sais à quoi ressemble ton pyrénée. Tu traverseras l'impossible comme Hannibal ou Pyrénée. Mais aussi réalise, tu es ton plus grand allié. Sois une force effective. Quand sortent les armes, tu as gagné. Ce petit être simple qu'inhibit sur cette pôle. Une révélation soudaine comme la vie qui s'impole. Ce petit être simple qu'inhibit sur cette pôle. Une révolution humaine, c'est la vie qui s'impose.
Nothing's gonna stop me. Rien ne pourra m'arrêter de militer, manifester pour l'égalité sans cesse harcelé par les cops. Me. Intimidé, médiatisé, humilié par la société. Mais je persévère avec mon hip hop. Répliquer, m'expliquer, m'exprimer en guerre contre l'humanité. Nothing, nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop me. Descendu par les paparazzes devant la foule crucifiée comme Jésus battu par Barabbas. J'ai presque plus de terre à place devant tous ces préjudices. Ils ont pendu ma carcasse devant le palais de justice. Depuis tout jeune la popo, je
veut me radier. Ils se sont moqués de mes propos dans les radios. La tête est coupée, accrochée sur un pic, 20 par le mail. Ils font la fête tous ces flics chaque fois que les journaux de moi parlent mal. Ils m'ont permis mes autos, ma compagnie, mon condo. Depuis 2005, mon album est poussé sans cesse sur mon dos. A annulé mes shows, en appelant les promoteurs. Leur disent que je suis trop chaud, un god gang, peut-être lié au moteur. J'aimerais savoir quelle est ma couleur, mon territoire. Je suis ni bleu ni rouge, ici c'est déjà assez dur d'être noir. Rien ne peut m'atteindre, mon cerveau est brain dead. Je purge ma peine, mais pour eux je reste prisonnier du système. Nothing's gonna stop me. Je ne pourrai m'arrêter de militer, manifester pour l'égalité. Sans cesse harcelé par les cops me. Intimidé, médiatisé, humilié par la société. Mais persévère avec mon hip-hop me. Pour répliquer, m'expliquer, m'exprimer en garde contre l'humanité. Nothing's gonna stop me. No.
De retour à votre fait, on va tomber dans les nouvelles internationales avec Jenny.
Comment je vais parler du profilage ethnique et jugé inefficace dans le en ce qui concerne la lutte antiterroriste. C'est le profil, c'est jugé qui dans le fond le profilage selon l'ethnie ne donne pas de meilleurs résultats dans la lutte antiterroriste que les techniques habituelles d'échantillonnage aléatoire affirment des statisticiens américains. C'est William Press et ses collègues de l'Université du Texas qui ont sorti une étude, dans le fond, je pense que c'est ça. C'est une méthode consiste pour les forces de l'ordre d'assurer des groupes ethniques particuliers pour mener des vérifications sur certains individus qui les constituent sans qu'il y ait de motifs réels ou des soupçons raisonnables pour le faire. On peut penser à la piste d'acharnement qu'il y a envers les personnes d'origine arabe depuis le 11 septembre, où si on pense profilage racial, les Noirs sont plus visés par les policiers. Puis en fait, ça serait même moins efficace une sélection d'échantillons au hasard. C'est William Press qui soutient que les statistiques montrent que les forces de l'ordre finissent toujours par examiner les mêmes personnes pour la simple raison qu'elles appartiennent à un groupe ciblé. Puis selon eux, dans le fond, ça donne des résultats, mais pas tant que ça, parce que eux autres, selon eux, c'est au détriment de d'autres groupes délaissés par la police, faute d'argent et de temps. Puis eux autres, selon eux, faudrait plutôt procéder à des échantillonnages au hasard sans sélection faciale. Ça, c'est pour, au lieu de dire, on va cibler tous les Arabes, ou puis les autres, les Blancs, on sont corrects, t'sais. Fait que c'est ça.
Le faciès, c'est une vieille technique policière française.
Ouais, c'est surtout une technique qui marche pas.
Effectivement.
Next.
Puis, c'est la santé qui ruine 100 millions de personnes dans le monde. C'est les dépenses de santé, dans le fond, qui plongent 100 millions de personnes dans la pauvreté chaque année dans le monde, selon un rapport qui a été publié cette semaine, lundi, par l'Organisation mondiale de la santé, qui estime que jusqu'à 40% des dépenses de santé qui sont gaspillées. Sur un total d'environ 5 300 milliards de dollars dépensés pour les soins de santé chaque année dans le monde, environ 300 milliards sont engloutis dans des erreurs ou la corruption, affirme le réseau européen de la fraude et la corruption de la santé européenne. Jusqu'à un quart de l'argent que les gouvernements sont censés utiliser pour acheter des médicaments est perdu d'une façon ou d'une autre en cours de route, ce qui coûte jusqu'à 23 milliards de dollars par année. Puis l'OMS note aussi que certains pays paient presque le double de ce qu'ils devraient pour leurs médicaments, et qu'au moins la moitié de l'équipement médical des pays pauvres est inutilisable, de même que la plupart du matériel donné aux pays en développement. Puis, juste un exemple, c'est que la majeure partie de l'équipement amené de la bande de Gaza depuis 2009, puis ça prenait de la poussière des entrepôts. Donc, ça ne sert même pas, là. Dans le fond, puis Dieu sait qu'il en aurait vraiment besoin. C'est quelqu'un de l'ONU, Mr. Excusez. C'est le spécialiste de l'aide étrangère à l'Université de New York, William A. Sturley, qui critique aussi les agences des Nations Unies, des grands donateurs comme la Bill et Melinda Gates Foundation, qui préfèrent mener des programmes spécifiques contre le paludisme, la poliomyélite ou le sida, plutôt que d'investir dans le système de santé publique. J'ai bien aimé son explication. C'est comme larguer des bombes à 11 000 mètres d'altitude sans savoir où ça va tomber, dans le fond.
OK.
Mais il dit que l'investissement dans le traitement contre le sida et le paludisme sont bien meilleurs pour la publicité que ceux d'un système de santé. Ça fait des beaux shows de boucan.
Au moins, les gens sont capables d'identifier à quoi ça va servir, entre guillemets.
Ouais. Mais selon Gian Norris, le directeur exécutif du laboratoire d'idées internationales. Du laboratoire d'idées International Policy Network qui est basé à Londres, mais quand la plupart des enfants d'Afrique meurent de pneumonie ou de diarrhée, le fait que les donateurs ouvrent une clinique contre le sida n'aide pas vraiment parce que. Bon, oui, on s'entend qu'il y a du monde en Afrique qui meurt du sida, mais il meurt pas juste de ça. Puis dans le fond, tout l'argent, il met à la même place. Puis...
Oui, mais c'est le principe de la charité. Hein? Ça permet aux riches de choisir dans quoi ils vont donner de l'argent, puis à quoi ça va servir leur argent, plutôt que de payer de l'impôt. Puis... Ouais.
Ils aiment ça, savoir exactement où va leur argent. Mais nous, on n'a pas ce privilège. Oui, c'est ça.
On parlait de manifestations tantôt. Encore une fois, des milliers d'étudiants qui sont descendus dans les rues de plusieurs villes britanniques pour protester contre la hausse des frais d'inscription à l'université mercredi. Dans le fond, on avait parlé la semaine dernière. Semaines, oui. C'est ça, à l'émission, comme quoi qu'il y avait plusieurs étudiants qui avaient pris d'assaut la siège du Parti conservateur à Londres, puis il y avait eu des échauffourées. C'est ça.
En fait, ils ont saccagé le siège.
Oui, c'est ça, c'est bloqué un jour, ça, justement.
Et voilà.
Des centaines de policiers ont des unités de police montées ont fait barrage face à des milliers d'étudiants et d'élèves du secondaire qui sont venus manifester leur colère à Whitehall, le quartier des ministères à Londres, selon des journalistes de l'agence France Presse, avec des slogans comme ça, le prix de Tories, faites gaffe et abat les coupes. Certains étudiants sont parvenus à escalader des bâtiments officiels ou sont montés sur des arrêts de bus, tandis que d'autres lançaient des fumigènes et des bâtons sur les barrages de police. Une fois dans l'article était quand même un peu comique parce que c'est là j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, j'ai appris que estafette, ça pouvait remplacer voiture.
Ah bon?
Ben, estafette, en fait, c'est un truc militaire de transport de courrier, si je me rappelle. C'est comme l'estafette passait d'une tranchée à l'autre. Mais c'est peut-être une image pour voiture.
Là, il parlait, une estafette de police vide a été attaquée par des manifestants qui ont détruit son pare-brise à coup de barre.
Ouais, sûrement que c'était un petit véhicule.
Oui, c'est ça. Avec quelques 10 000 manifestants, c'est pour ça c'est à Londres, il y a quelques centaines à 3 000 dans les autres villes universitaires du pays. Selon les estimations de l'Agence nationale Press Association, la mobilisation apparaissait cependant plus faible que le 10 novembre. À ce moment-là, c'était près de 50 000 manifestants qui s'est alors rassemblés à Londres. Ils ont eu des situations d'étudiants. Là, nous sommes ici pour montrer au gouvernement comment ça se passe quand on est en colère. Ça, c'est un autre étudiant qui n'était pas nommé. Bethany Hawkers, une collégienne de 15 ans, en uniforme, qui est allée manifester, elle devait être dans une école privée, elle dit que je vais à l'université, je vais faire quelque chose de ma vie, mais ces coupes vont rendre cela presque impossible. Ma mère vit des allocations, a déjà du mal à joindre les deux bouts. C'est le gouvernement qui a prévu d'augmenter fortement les frais d'inscription des universités anglaises en apportant 5 275 $ par étudiant, ça c'est en argent canadien, puis jusqu'à 6 000 livres là, dans des circonstances exceptionnelles. Par an, puis à 6 000 livres. Et dans des circonstances exceptionnelles, peut-être même à Chicana, 9 000 livres. Donc, il y a aussi eu des manifestations d'occupation d'université. Ils ont eu à Oxford, Cambridge, Manchester, Bristol, Sheffield et Leeds. Quand il y avait eu les grosses, la manifestation de 50 000 étudiants, il y avait. La police, ils ont procédé à 66 arrestations, dont celle d'étudiants soupçonnés d'avoir jeté un extincteur sur des policiers en haut de l'immeuble. Je ne sais pas si ça a tué quelqu'un, mais en tout cas. Les étudiants avaient annoncé qu'ils comptaient cette fois-ci viser les libéraux démocrates alliés aux conservateurs sur le gouvernement qui les accuse d'avoir renié leur promesse électorale de combattre toute augmentation des frais d'inscription. Donc, on va voir checker qu'est-ce qui se passe de ce côté-là.
Attends, puis avant de passer à l'autre, l'estafette, là, c'est parce que c'est un véhicule qui est produit par Renault. Parce qu'en fait, estafette, comme tu le disais, c'est un grade ou une fonction militaire. En fait, c'est quelqu'un qui est chargé de passer des messages écrits en différents camps ou lignes de front. Mais la Renault estafette, c'est un fourgon.
Ah, d'où les images du petit fourgon Renault qui se faisait brasser.
C'est ça. C'est comme une espèce de truc là, pour transporter des CRS, en fait.
Pour ça, c'est un autre artiste de l'agence France Presse. Faut croire qu'ils sont assez... occupé de ce temps-ci. Là, c'est plus une bonne nouvelle. Il y a eu une grève générale historique contre des mesures d'austérité au Portugal. Enseignants, cheminots, mais aussi pompiers, artistes ou médecins, la grève générale contre l'austérité convoquée mercredi au Portugal, dans le fond, c'est aujourd'hui, a remporté la plus forte adhésion jamais enregistrée de l'histoire du pays, selon les syndicats. C'est la plus grande grève jamais réalisée, plus importante que celle de 1988, année de leur dernière grève générale unitaire du pays, a déclaré Joa Pro Ensa, secrétaire général de la centrale UGT, lors d'une conférence de presse. C'est un mouvement qui a été convoqué par les deux centrales syndicales, la CGTP et l'UGT, a provoqué mercredi la paralysie quasi totale des transports publics alors que tous les vols commerciaux au départ comme à l'arrivée au Portugal étaient annulés. Dans la grande majorité des cas, la mobilisation est même plus forte que lors des grèves sectorielles, et ça c'est quand même intéressant. Elle ne concerne pas seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. Donc.
Ouais, non, mais c'est bon ça.
Ouais. Puis là, aussi, il y a aussi eu la ministre du Travail, Hélène André, qui a dit que c'était pas si pire que ça, que c'est au privé, c'était pas si... Ah ouais, tu sais, elle dit qu'elle a qualifié quant à elle de très réduire la mobilisation du secteur privé, précisant se fonder sur la commotion d'électricité. En tout cas.
Oui, effectivement. C'était tout pour le Portugal, non?
Selon le ministre, le secteur le plus affecté par le mouvement est le secteur des transports, avec un taux d'adhésion variable entre 5,9 et 95% selon les entreprises. Pourtant, quand on check les entreprises publiques de transport, eux, ils ont comme... Il y a un autre discours. Les entreprises publiques de transport ont toutes reconnu mercredi l'impact de la grève. À Lisbonne, le réseau du métro était totalement fermé et seul un bus sur quatre est en circulation la mi-journée. Le transport fluvial entre les deux rives du Tagre était également interrompu. La compagnie publique des chemins de fer a annoncé la suppression de 75% des trains. Puis à Porto, seule ligne de métro 6 est en service. Fait que ça n'a pas été paradis. En tout cas. Puis, là, on parle de... Après avoir enregistré en 2009 un déficit public record de 9,3% du PIB, sauf quand même, c'est quand même des socialistes qui sont au Portugal. C'est engagé à le ramener à 7,3 cette année et à 4,6 l'an prochain.
Ouais, mais socialiste, ça veut rien dire.
Ben, c'est ça. Ben,
mes cousins espagnols me disent socialiste, c'est pas mieux que nos libéraux.
Ben, c'est ça. Ben, regarde en Grèce. C'est des socialistes aussi, puis dans le fond, on aurait cru des...
Non, la moitié des pays où est-ce que ça chie, c'est des socialistes, puis l'autre moitié, c'est des...
Au prix de... Dans le fond, eux autres, ben, ça, des mesures d'austérité sans précédent, cumulant un coût budgétaire, ben, des salaires au-dessus de 1 500 €, je sais pas comment ça fait dans le dollar canadien, suppression des prestations sociales et hausse d'impôts, puis ça a aussi la grève au centre, des très fortes perturbations dans les dispensaires et les hôpitaux, puis c'est quand même... Ça, les urgences étaient assurées, puis aussi qu'il y a eu plusieurs milliers d'écoles fermées. Puis le vote définitif du budget est prévu au Parlement vendredi, dans le fond. Parce qu'eux autres, le Portugal, ce serait dans le fond le prochain pays de la zone européenne à recourir à l'aide extérieure. Donc là, il y a l'Irlande qui va demander des mesures comme ça, puis là, c'est autour du Portugal.
Irlande, ce grand modèle de réussite économique du FMI.
Oui, effectivement, en fait, ils sont sur le bord de la faillite. Très, très, très brièvement, un de nos correspondants à Toronto nous a envoyé une nouvelle assez spéciale. Il y a une centaine de travailleurs migrants de l'agriculture à Simcoe, en Ontario, qui font face à une déportation imminente pour avoir participé dans une grève sauvage. Parce qu'ils demandaient à ce que des salaires non payés entre 1 000 et 6 000 $ par personne leur soient versés. Et la réponse patronale a été foudroyante. Dès jeudi, le 25 novembre, ils vont être évincés des terres et des endroits où est-ce qu'ils vivent. La plupart des travailleurs mexicains et de Trinidad et Tobago vont être rapatriés. Tous les Jamaïcains ont déjà été rapatriés. Et l'électricité et le... chauffage a été coupé dans les installations qu'ils utilisent.
Mais avec tout ça, ils vont-tu payer les arriérés?
Non. Et le fait d'être déporté, ça veut dire qu'ils auront plus accès aux ressources légales au Canada pour se faire payer. Est-ce que tu nous mets de la musique pour faire une brève transition vers
non,
notre
moi,
reportage?
Je te mets tout de suite la chronique islamiste.
Vas-y.
Je vais revenir sur une polémique qui intéresse beaucoup les agités du bocal de la droite populiste. En fait, il s'agit du soi-disant agenda caché islamiste d'Amir Kadir. Donc, dès l'élection du député de Mercy en 2008, donc député de Québec solidaire, il y avait Éric Duhaime qui avait attaché le grelot du passé islamiste d'Amir Kadir, donc de son agenda caché. Il était revenu là-dessus en mars dernier sur les ondes de Choix Radio X dans sa chronique d'analyse politique. Et là, tout ça a rebondi à l'Assemblée nationale. Il y a un député libéral, André Drolet, qui a directement fait référence à ça en menaçant Kadir de déterrer des choses dans son passé. Donc, on va d'abord écouter Éric Duhaime et ses accusations sur les ondes de Choix.
Là, il faudrait que Françoise David le rappelle à l'ordre, Amir Kadir. Là. Si Françoise David veut créer un parti islamiste au Québec, qu'elle nous le dise. Là. Mais là, c'est supposé être un parti de gauche, d'extrême gauche ou de gauche, son affaire. C'est pas supposé être un parti islamiste. Et moi, ça m'inquiète, cet agenda-là d'Amir Kadir. J'espère que c'est un agenda personnel, que c'est pas un agenda de Québec solidaire puis de Françoise David. Ça n'a aucun sens. Il faut l'arrêter. Il y a un agenda. C'est un gars qui est très radical, qui s'en va, on sait pas où, mais on sait que c'est pas clair ses visées. Moi, ça m'inquiète, puis c'est pas la première fois que j'en parle, là. J'en ai parlé sur plein d'autres dossiers.
Donc, la question de l'agenda islamique, du soi-disant agenda islamique d'Amir Kadir est rebondi à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, le député a abordé ça de façon très transparente et franche, a abordé la question de front devant les journalistes de la colline parlementaire dans un point de presse. Donc, ben, tout d'abord, voici ce qu'ils pensent de la question de l'agenda caché.
C'est tellement ridicule et grotesque comme accusation. Il me semble que ça va de soi. Je suis principal porte-parole d'un parti qui est féministe. Ça fait 10 ans que je travaille étroitement avec Françoise David, qui était à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Nous avons, dès notre assemblée de fondation en 2006, juste pour parler de Québec solidaire, dans notre déclaration, là, il y a plusieurs éléments, dont un des principaux est notre engagement au caractère laïque de l'État. En plus, je viens d'un milieu de militants où mes parents, mes beaux-parents, où mon épouse, où toute ma famille est engagée dans le combat politique contre le fanatisme islamique depuis au moins 30 ans. Alors, quand quelqu'un dit un agenda islamiste caché, c'est assez grotesque. En fait, c'est des gens qui n'ont pas fait leur travail sérieusement.
La racine, la base de toute cette question, c'est la participation d'Amir Kadir à un groupe qui a un nom qui fait peur, les Moudjahidines du peuple iranien. Et puis donc, ce nom-là, ça indique pour plusieurs personnes, c'est de là que vient l'islamisme. Sauf que bon, c'est pas tout à fait ça qu'il faudrait retenir. Et Amir Kadir, donc, a fait une leçon d'histoire politique aux journalistes de la colline parlementaire. C'était de toute beauté. Là, on écoute ça.
J'ai été sympathisant des Moudjahidines du peuple entre 80 et 83. Cette organisation luttait en Iran contre la dictature des religieux au pouvoir, la dictature des ayatollahs, ceux qui aujourd'hui briment et répriment encore 30 ans plus tard le peuple iranien.
Ces sympathies-là passées ont fait dire à un chroniqueur que vous aviez, et je cite, « un agenda islamiste ». Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est très drôle de leur part. Parce qu'on disait la même chose à l'époque. On disait que les mollahs, le Khomeini et sa gang, disaient des Moudjahidines qu'ils avaient un agenda marxiste. Alors là, c'est le genre de tactique habituellement qu'usent les pouvoirs de droite ou les pouvoirs fascistes ou les gens qui veulent faire taire d'autres. Regardez aux États-Unis. Obama a un agenda islamiste tantôt c'est un marxiste, tantôt c'est un socialiste, tantôt c'est un musulman, même s'il a été baptisé catholique. On met même en doute le fait qu'il puisse être américain. Alors c'est des tentatives de salissage. Je rappelle, je le dis ici devant le peuple québécois, plus on va s'enfoncer dans cette crise qu'on vit actuellement, plus on va remettre en question des privilèges de ceux qui s'accrochent au pouvoir, de ceux qui ont des millions, qui brassent des millions de manière illégale avec le gouvernement, plus vous allez voir de ce genre de tactique, de salissage, de ces tentatives de faire des assassinats de personnalités pour essayer de déstabiliser ceux qui contestent, ceux qui posent des bonnes questions. Je vais vous le dire pourquoi. C'est un de vos journalistes, un de vos collègues qui a fait un travail un peu bâclé en 2004 ou 2006. Je ne le nommerai pas. Puis il a cherché des choses, il a trouvé sur Internet, il les a collées ensemble. Alors, s'il avait un peu fouillé, puis s'il connaissait un peu la situation iranienne, il saurait que les Moudjahidines sont la principale opposition à la théocratie. Maintenant, les Moudjahidines ont mal viré au cours des 10-15 dernières années parce que ils se sont rabattus sur des conceptions qui leur appartiennent. Mais moi, je ne suis plus avec eux depuis 83.
Dans, je ne suis pas un spécialiste de l'Iran, habituellement, quand on entend le mot Moudjahidine, on pense à prosélytisme.
Oui, mais c'est parce que il y en a de plus. Les Moudjahidines afghans, ça, c'est le prosélytisme. Les Moudjahidines, par exemple, le djihad islamique, le djihadisme, c'est du prosélytisme wahhabite. C'est les salafistes, c'est les wahhabites, c'est les branches orthodoxes, ultra-conservatrices, fanatisées, qu'on décrit comme étant donc des fondamentalistes. Mais les Moudjahidines du peuple, c'est des socialistes. Ça a parti en 65, c'est des gens qui frayaient avec les mouvements de libération nationale. C'est un peu comme la théologie de la libération. C'est l'autre bout du spectre. Okay? Les Moudjahidines sont de la gauche sociale et révolutionnaire guévariste, si vous connaissez le terme, des mouvements de guérilla urbaine qui luttaient contre les pouvoirs qui étaient des fantoches des Américains dans les années 60. Alors, tu en avais de différentes formes partout. Par exemple, en Amérique latine, tu avais les Tupamaros, tu avais le MIR au Chili. C'est des mouvements de guérilla urbaine. En Iran, ils ont pris une appellation qui référait à leur histoire. Alors, c'est dans ce sens-là qui se sont appelés Moudjahidine pour faire la connexion avec leur histoire, mais ils n'ont rien à voir avec les Moudjahidines africains. Les Moudjahidines africains, c'est une idéologie féodale. Ils sont liés au féodalisme et aux religieux orthodoxes. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Khomeini est arrivé au pouvoir, quand les théocrates sont arrivés au pouvoir en Iran, les premiers qu'ils ont commencé à assassiner puis à éliminer, ben c'est les Moudjahidines du peuple.
L'autre point qui amène la droite populiste à s'énerver beaucoup le poil des jambes, c'est le fait que les Moudjahidines du peuple sont une organisation qui est classée terroriste par plusieurs États. Mais semble-t-il qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et donc voici, cette question-là aussi a été abordée lors du point de presse, et voici ce qu'Amir El-Kadir avait à en dire.
C'est une organisation qui a été classée terroriste pour différentes raisons, parce que ensuite, moi j'avais quitté l'organisation depuis 83, surtout parce que dans le jeu politique, la géopolitique de la région, c'est très courant, suivant les alliances multiples et différentes. Quand l'organisation devient adverse, on le classe terroriste, tantôt on l'enlève de la liste terroriste. Par exemple, ça s'est passé en Europe, tantôt classé terroriste, quelques années plus tard, on l'enlève de la classification terroriste. Je vous rappelle que l'organisation des Moudjahidines, son leader, est sorti avec le président de la République iranienne en juillet 1981, reçu comme héros par le président français François Mitterrand. On parle de 1981. Le leader des Moudjahidines, accompagné du président légitimement élu en Iran, Banisad, le premier président de la République, qui avait été écarté du pouvoir par un coup d'État par les Mollahs, était reçu officiellement par la présidence française en juillet 81.
Alors, vérification faite, c'est vrai que les listes de groupes terroristes fluctuent beaucoup selon les années. Alors, en 2008, quand Éric Duhaime avait attaché le grelot de l'agenda islamiste, effectivement, les Moudjahidines du peuple étaient sur la liste terroriste de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Mais ça change beaucoup ces affaires-là, parce que au moment de vérifier ça cette semaine, ils n'y étaient plus. Et pour ce qui est de l'islamisme, ben, je suis allé vérifier ailleurs. Et effectivement, du côté des camarades du Parti communiste ouvrier d'Iran, qu'on peut pas accuser de double discours, parce que bon, en fait, c'est vraiment des athées militants. Ils disent que c'est vrai que les Moudjahidines du peuple, c'est pas des islamistes. Il faudrait plutôt parler de théologie de libération, et que c'est vraiment impropre et dégueulasse de parler d'islamisme dans ce cas-là. Et c'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de fait, parce que j'ai dépassé mon temps. C'était Nicolas en compagnie de
Janip
et Farouko, qui dit on finit avec les partisans pendant 10 secondes.
Passez une belle semaine sur les ondes de Sequoia.
Sequoia, pour moi, c'est un moyen de faire passer la diversité d'informations, la diversité musicale dans la ville de Québec.
Tu aimes cette station, toi aussi? Deviens membre!